Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette chronique du Pays Toulousain. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Kerembloc.
Bonjour.
Bonjour Jérôme, qui est un de nos deux piliers du musée et qui s'intéresse beaucoup, et bien sûr comme nous tous, mais plus encore, à l'histoire de Toulouse. Et il a voulu nous parler aujourd'hui de ce qui est à la fois un mythe et une réalité. Vous savez qu'à Toulouse, on aime beaucoup les mythes, Clément Cizor. Et là, aujourd'hui, il va nous parler de la belle Paul. Jérôme, c'est à vous. Présentez-la nous.
Alors, bonjour donc. Avant d'être la belle Paul, effectivement, elle est Paul de Viguier. Paul de Viguier, c'est une femme de la bourgeoisie toulousaine du XVIe siècle, de la seconde moitié du XVIe siècle. Il en a conservé quelques actes notariés, quelques textes qui la concernent, où sa signature apparaît, qui nous permettent un peu de situer le personnage. Alors, elle est la quatrième fille d'Antoine de Viguier et de Jacquette de Lancefoc. Les Viguier sont une très ancienne famille toulousaine, de la noblesse toulousaine. Il y a eu un Antoine de Viguier distinct du père de Paul de Viguier, qui a été capitoul en 1464 et en 1477. Les Lancefoc, de leur côté, c'est des marchands bien connus dans le commerce du pastel. Ils sont très bien implantés à Toulouse. Ils sont alliés à plusieurs grandes familles de marchands, les Cheverry, pardon, par exemple. Et plusieurs membres de la famille Lancefoc ont aussi exercé les fonctions de capitoul au XVIe et même au XVIIe siècle. On connaît ses mariages aussi. Elle a épousé en première noce un certain Pierre de Bénaguet, qui est conseiller au Parlement de Toulouse. Elle l'épouse en 1552 et Bénaguet meurt donc en 1583, premier mariage qui dure 30 ans. Paul de Viguier épouse alors en seconde noce, à une date qui nous est inconnue, Philippe de la Roche, qui est baron de Fontenille, en Gascogne, près de Plaisance-du-Touche, et il est toujours dit capitaine de 50 hommes d'armes. C'est un homme d'armes, donc. Ce second mariage sera lui, par contre, de courte durée, puisqu'en 1592, Paul de Viguier est déjà à nouveau veuve. Donc on voit par ses origines familiales et ses deux mariages que Paul de Viguier évolue dans le cercle des principales familles de marchands pasteliers de la ville, et cercle qui est en même temps très proche des cercles du pouvoir, aussi bien du pouvoir capitulaire que du pouvoir parlementaire. Alors la dernière certitude qu'on a sur Paul de Viguier, c'est qu'elle est morte le 13 mars 1610 et qu'elle a été enterrée près de sa mère dans l'église des Augustins.
Très bien. Donc voilà une biographie très très bien renseignée. Mais ça c'est pour la vraie vie de Paul de Viguier. Mais Jérôme, comment devient-elle la belle Paul?
Alors, elle va devenir la belle Paul de son vivant. Le mythe apparaît dès de son vivant. Et elle devient la belle Paul grâce à un personnage que certains présentent comme un cousin, même si la chose n'est pas avérée, un certain Gabriel de Minute, issu d'une famille de parlementaires lui aussi, puisque son père Jacques de Minute était premier président du Parlement de Toulouse. Et Gabriel de Minute nous a laissé un ouvrage assez étonnant qui s'appelle la Paulographie. Alors, qui, comme son nom l'indique, son étymologie le dit, c'est une description de Paul. La Paulographie, c'est une annexe en fait d'un ouvrage typiquement de son temps. Gabriel de Minute est un lettré, évidemment, et il écrit un ouvrage assez savant pour une sorte de démonstration à base d'hébreu, de grec, pour démontrer que tout ce qui est naturellement beau est naturellement bon. Et donc, il ajoute une annexe à la fin de cet ouvrage, la Paulographie, qui est un cas pratique où il montre que cette Paul de Viguier était tellement belle qu'elle ne pouvait que être naturellement bonne aussi. C'est un ouvrage assez étonnant pour plusieurs raisons. D'abord, il semble avoir une diffusion très, très restreinte. Il a été publié à titre posthume en 1587. Il a été publié par la sœur de l'auteur, Gabrielle Duminute, qui était abbesse d'un monastère à Toulouse. Donc c'est une abbesse qui a publié ce livre qui pourrait paraître licencieux un peu. Et elle le fait publier à Lyon. Alors la date de rédaction de l'ouvrage n'est pas connue. Tout laisse penser qu'en fait, Gabriel de Minute a écrit cet ouvrage au moment du premier veuvage de Paul de Viguier, que c'était en quelque sorte une manière de se placer, qui a échoué apparemment.
Donc c'est un peu la naissance du mythe finalement.
C'est la naissance du mythe, c'est la première fois qu'apparaît cette appellation de Belle-Paul. Et alors, dans le mythe de la Belle-Paul tel qu'il est connu aujourd'hui, il y a quelques épisodes qui partent de ce livre, notamment ce proverbe qui existait autrefois qui disait qu'à Toulouse, il y avait quatre merveilles. Quand on venait à Toulouse, il fallait voir quatre merveilles. Il y avait les moulins du Bazac et l'église Saint-Cernin. Et les deux autres merveilles étaient la Belle-Paul et un violoniste que tout le monde a oublié aujourd'hui qui s'appelait Matalin. Ce proverbe, alors c'est pas Gabriel de Minute qui l'invente, il apparaît pour la première fois en 1671 dans un dictionnaire historique à l'article consacré à la ville de Toulouse, mais il y a un récit, une petite biographie, une courte biographie de Paul de Viguier dans la Paulographie, où effectivement il y a en germe ce proverbe déjà dans cet ouvrage.
Donc c'est à partir de là qu'on magnifie finalement Paul de Viguier, parce que je pense même qu'à un certain moment, mais bon, vous allez nous le dire, elle doit paraître au balcon, enfin, il y a tout un cérémonial.
Oui, il y a toute une série d'épisodes très célèbres dans laquelle elle apparaît. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la paulographie, c'est difficile de savoir si elle est à l'origine, parce qu'apparemment, l'ouvrage n'a pas eu une diffusion très très grande. Il faut quand même savoir que la bibliothèque de Toulouse elle-même, jusqu'aux années 1960, n'avait pas d'exemplaire original de cet ouvrage. Elle a réussi à en acquérir un seulement à ce moment-là. En tout cas, c'est à partir de cette époque que Paul de Viguier devient une sorte d'égérie de la ville de Toulouse et qu'on veut la voir un peu partout où elle n'est pas. Notamment à son balcon, comme vous l'avez signalé. Mais alors, dans ces mythes, le plus ancien, c'est celui qui concerne une prétendue momie de la Belle-Paul, puisqu'il y avait au Cordelier de Toulouse, au monastère des Franciscains qui se trouvait là où il y a la Banque de France aujourd'hui, à Toulouse, il y avait donc un caveau qui avait la propriété de conserver les corps intacts qu'on faisait visiter. Et on sait par un visiteur polonais, oui, il était polonais ce monsieur, il s'appelait Golnitz. Il vient à Toulouse en 1631, il visite le monastère des Cordeliers et on lui montre une momie en lui disant, d'une femme évidemment, en lui disant que c'est la momie de la Belle-Paul. Et pendant des siècles derrière, puisque encore après la Révolution française, les Cordeliers faisaient visiter ce caveau en disant que c'était la momie de la Belle-Paul qui était là. Alors c'est un mythe qui a été combattu très tôt, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait par son testament qu'elle a été enterrée aux Augustins, donc effectivement, elle n'était pas au Cordelier.
Ah, mais la force du mythe emporte tout.
La force de... On voulait absolument voir. En plus, bon, c'était évidemment ce prétexte à des réflexions sur... elle était belle de son vivant, voyez ce qu'il en reste, etc., comme tout le monde. Alors il y a un deuxième grand mythe autour de la Belle-Paul, c'est une prétendue rencontre avec François Ier qui vient à Toulouse en 1533. Elle lui aurait soi-disant remis les clés, alors que les annales de la ville de Toulouse, qui nous livrent un récit de cette entrée royale, n'en parlent absolument pas. En fait, c'est l'analyste Lafaille qui parle de ça le premier en 1701, en disant que c'est une tradition dans la ville de Toulouse que la Belle-Paul avait remis les clés à François Ier, donc quelque chose qui relève un peu de l'oralité. Bon, la chose a été... il a été démontré depuis que c'est pas possible, puisque on a l'acte de mariage de ses parents qui date de 1530.
Oui. Donc, par hypothèse.
Et on a l'acte de mariage de Paul de Viguier elle-même, je l'ai dit tout à l'heure, elle s'est mariée avec Paul Pierre Benaguet en 1552. Donc si elle était née en 1518, comme certains le prétendent, elle se serait mariée très, très âgée. Et puis dans les grands mythes qui concernent la Belle-Paul, il y a celui que j'appelle le mythe du balcon, effectivement. C'est ce qui est d'ailleurs représenté à la salle des illustres au Capitole.
Oui, la Belle-Paul a son balcon.
Voilà, censément, ces sorties en ville provoquaient des émeutes et on voulait absolument la voir. Et pour pallier à la chose, les Capitouls ou le Parlement de Toulouse, selon les auteurs, lui auraient ordonné de paraître deux fois par semaine à son balcon. Et la tête découverte.
Inutile de dire que ça, on a des traces là. Il y a des écrits là-dessus.
Inutile de dire que dans les archives de la ville de Toulouse, oui, et dans les archives du Parlement, il y a rien du tout là-dessus. Et la première personne à parler de ça, c'est une femme de salon parisienne qui s'appelle la marquise de Lambert et qui cite ça pour la première fois dans les années 1750.
Très bien, très bien. On voit finalement que c'est un mythe qui s'est construit, mais c'est un mythe qui s'est vraiment enraciné.
Enraciné, et grâce à un homme qui s'appelle le marquis d'Orbessan. Un parlementaire aussi d'ailleurs, qui en 1768 va écrire un grand article sur la Belle-Paul, et c'est la première fois qu'il y a un grand article écrit sur cette personne-là. Avant, ce que je disais, ça relevait plutôt de l'oralité, des traditions, on dit que, etc. Et il va reprendre tous les éléments épars, il va en rajouter quelques-uns, et derrière, tout le monde va reprendre ça inlassablement jusqu'à aujourd'hui, puisque encore en 2019, il y a un ouvrage qui est sorti sur les Toulousains qui font l'histoire. Paul de Viguier est dedans, avec tous les éléments du récit traditionnel autour de la personne.
Alors, je crois qu'il y a une plaque également commémorative. Je crois que c'est au début de la rue Nazaré ou place
c'est
du Salin.
Alors, la Labelle Paul est toujours en
Labelle
plus,
Paul.
Elle continue à être parmi nous. Il y a effectivement à Toulouse ce fameux hôtel de Labelle Paul au tout début de la grande rue Nazareth. Alors, il faut savoir quand même qu'elle a pratiquement jamais habité dans cet hôtel. Elle a passé le plus clair de sa vie dans un autre hôtel qui s'appelle l'hôtel Benaguet, qui se trouve juste à côté du musée du Vieux Toulouse, dans la rue Tripière. Voilà, ou rue Tamponnière, parce qu'il y a une entrée sur chaque rue. Labelle Paul a aussi été le sujet de pièces de romans, de théâtre, de poèmes, assez peu nombreux quand même finalement. Il y a des bateaux de la Marine nationale qui ont porté son nom encore aujourd'hui. Il y a un bateau qui s'appelle la Belle Poule. En fait, c'est la Belle Poule, mais il faut savoir que c'est la Belle Paul en fait qui se cache derrière. Évidemment, tous les Toulousains connaissent la maternité Paul de Viguier à Toulouse. Il y a une rue Belle Paul à Toulouse aussi. Comme je disais, il y a des peintures, celles des illustres sous les arcades au Capitole qui rappellent le personnage, etc. Et même suprême consécration de notre temps, c'est devenu un produit commercial, puisqu'il y a des hôtels toulousains qui proposent des suites Belle Paul, si vous voulez, dormir dans des beaux draps. Et il y a même sur Internet, on trouve, alors c'est la vague du renouveau du pastel en ce moment, et on propose des onguents de la Belle Paul à base de graines de pastel, par exemple, sur certains sites.
Donc, jusqu'où va le mythe, finalement?
Oui, évidemment, tout ça est très éloigné de la personne qu'elle a réellement été au XVIe
siècle. Ce qui est quand même incroyable, c'est que ce mythe ait pris racine et qu'il dure.
Oui, c'est ça. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il dure sans support matériel.
Oui,
il n'existe absolument aucun portrait de la Belle Paul,
oui.
Aucune médaille qui lui soit consacrée, rien du tout.
Bon, écoutez, voilà évoqué de façon très précise.
Mais succincte.
Non, pas succincte, très, très imagée. On imagine la Belle Paul. Merci beaucoup, Jérôme, de cette belle évocation et d'avoir évoqué la puissance du mythe.
Avec plaisir. Au revoir.